Être parent et sportif peut être très compliqué. Les enfants sont vus comme des moteurs, mais aussi parfois comme des contraintes. On veut leur montrer le bon exemple, mais on culpabilise de ne pas être avec eux, par exemple. J'ai souvent abordé la parentalité avec mes invités, et plus souvent avec les femmes. Mais cette semaine, j'en discute avec un homme, un papa, qui a décidé de rester à la maison pour s'occuper de ses jumeaux pendant que sa femme travaille. Et ils ont aussi fait un autre choix, celui de ne pas mettre de côté leurs objectifs sportifs. Et vous allez découvrir dans cet épisode pourquoi ce choix et comment ils font. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et avant de vous présenter mon invité pour cet épisode, une petite question. Connaissez-vous le terme « dad blessing » ? Cette expression présente en héros un papa qui s'occupe beaucoup de ses enfants ou peut-être juste normalement. Cette expression peut vraiment énerver, à juste titre, les mamans qui font ça tout le temps sans que personne ne s'en étonne et sans leur avoir donné de médaille ou un terme particulier. Sofiane, lui, ne soit pas comme un héros, même si son mode de vie est surprenant et peu conventionnel. Et la médaille qu'il veut aller chercher est sportive. Sofiane fait partie d'un tout petit pourcentage d'hommes qui a fait le choix de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants pendant que sa femme travaille. Il est ainsi papa au foyer, il s'occupe de leurs jumeaux. Et vous avez constaté qu'il a plein d'anecdotes, mais aussi quelques questionnements autour de ce choix. Le pourcentage de papa au foyer est assez faible en France, mais ce qui est amusant, c'est que c'est le deuxième papa au foyer sportif que je croise en quelques semaines. Car oui, si j'ai invité Sofiane, c'est qu'avec son épouse, ils ont fait aussi un autre choix, celui de garder le sport dans leur vie et ne pas faire une croix sur leur projet sportif. Sofiane prépare un marathon en moins de 3 heures, alors que sa femme prépare un trail de 100 km, puis la Mascareigne, un trail de 72 km de longueur et de 3900 mètres de dénivelé positif, à La Réunion, vous savez, en même temps que le Grand Raid. Alors, comment ont-ils fait ces choix? Comment arrivent-ils à s'entraîner l'un et l'autre? Comment Sofiane parvient-il tout de même à placer son entraînement, une dizaine d'heures d'entraînement par semaine, avec deux jumeaux à temps plein à la maison? Vous allez comprendre qu'il y a des questions d'organisation, de matériel, mais aussi beaucoup de volonté, et notamment la volonté d'être champion du monde, de son monde. Nous avons aussi parlé de son état d'esprit, de l'organisation, les veilles de course, de ce que j'appelle le mode de vie athlète du quotidien, et comment Sofiane l'applique. Et vous allez aussi comprendre à quel point ce choix d'éducation, de mode de vie, ainsi que ce choix sportif, est enraciné profondément dans son histoire et la relation qu'il a notamment avec son papa. Dans cet épisode, à un moment, je dis que Sofiane est féministe, mais en fait, j'espère surtout qu'il est le prototype du futur papa et surtout que dans quelques années, comme nous le disons à la fin de l'épisode, cette question-là ne sera plus surprenante et que nos enfants pourront faire ce choix sans qu'on les questionne, sans que ça surprenne quelqu'un et que la société soit organisée pour qu'ils puissent le faire, tant à la fois sur le plan de l'éducation, du mode de vie, que sur le plan du sport. Et maintenant, place à ma discussion avec Sofiane. Allez, c'est parti.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour Sofiane.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben, comme un lundi, on démarre une nouvelle semaine, tout va très bien, donc hâte de pouvoir échanger avec toi sur ton podcast.
Ouais, alors lundi à la maison, mais j'ai envie de te dire, c'est ton quotidien.
Exact.
Donc c'est le sujet du jour. On va en parler parce que justement, c'est pour ça que tu es là. Tu m'avais envoyé un message et on en a discuté la semaine dernière. C'est très intéressant parce que tu fais partie en fait d'une espèce en voie d'apparition. Hein, peut-être, en tout cas, je l'espère.
On n'est pas nombreux pour l'instant et j'espère que cette espèce va grandir et se proliférer petit à petit.
Ouais, et c'est vrai que j'ai souvent parlé de la parentalité et souvent la parentalité, on la prend sous la forme des mamans. comment les mamans, elles arrivent à être à courir, comment elles arrivent à reprendre, comment elles arrivent à faire du sport, tous ces sujets-là. Mais en fait, il y a tout le côté papa. Et puis, alors toi, tu as un côté papa, double papa. Hein, vous n'avez pas fait les choses à moitié, vous avez fait les choses en double.
Non.
Et en plus, toi, ta caractéristique, c'est que tu as la maison. Et tu es un papa au foyer.
C'est exactement ça. Comme tu le dis, hein, la parentalité, très souvent, nous, les hommes, dans notre société, qui se veut pourtant égalitaire, on a encore plein de préjugés, où le rôle du papa, on dirait que, sincèrement, souvent, c'est soit juste un géniteur, soit, en plus de ça, juste un assistant, comme si beaucoup, beaucoup de choses émanaient du rôle de la maman. Alors que, on va creuser ma situation petit à petit, le papa peut, selon des faits de vie ou un choix, avoir plus qu'un rôle d'assistant, voire quasiment le rôle principal dans l'éducation des enfants. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, on va échanger sur la parentalité vue par le prisme d'un papa au foyer et, comme tu l'as dit, pas d'un enfant, mais de jumeaux.
Bon, ils ont quel âge les jumeaux ?
Ils ont eu 15 mois. Ils sont nés en décembre 2022.
15 mois, dis donc, ça doit commencer à être sportif. Hein. Et on parlera bien sûr de sport pour ceux qui se posent la question, parce que non seulement il y a deux jumeaux dans l'histoire, mais en plus, vous avez chacun des objectifs sportifs. Hein, parce que vous allez vous entraîner avec des volumes d'entraînement et tout. Donc c'est le cumul de tout ça qui rend je pense l'histoire super intéressante et même peut-être fascinante dans l'histoire, parce qu'il y en a qui vont se dire mais comment c'est possible. Et en plus, je te disais dans la préparation la semaine dernière quand on s'est eu que en un mois t'es le deuxième papa coureur au foyer que je croise. Et alors vous n'avez pas les mêmes circonstances, les enfants n'ont pas les mêmes âges, etc. Donc, ça fait un petit pourcentage, en fait. Il y a un tout petit pourcentage des hommes dans ce cadre-là. Et puis, alors, des coureurs, en plus. Mais n'empêche qu'il y a une certaine logique. Et on va parler de cette logique-là, de pourquoi, comment c'est venu, etc. Mais d'abord, on va présenter, je vais te laisser te présenter en quelques mots, pour recadrer un peu, en fait, où tu es et tout ça.
Yes. Alors, moi, c'est Sofiane, 39 ans. Ça a son importance. Parce que quand on va parler des objectifs sportifs, la notion d'âge a son importance. Donc 39 ans, en Alsace, à la frontière suisse collée à Bâle, depuis 4 ans, parisien de naissance. Et pareil, ça on va en parler petit à petit, j'ai pas d'attache, de vraies attaches, tant géographiquement que professionnellement. C'est pour ça que je suis capable de vraiment chambouler mon quotidien, de prendre des décisions un petit peu radicales parce que j'ai vécu 3 ans en Australie, Paris, Alsace, on y est là à Eggenheim pour être précis dans le Haut-Rhin, mais on était à Strasbourg il y a encore un an. Donc vraiment, j'ai pas d'attache particulière, je peux tout envoyer péter du jour au lendemain. Et sportif, tout comme ma femme. Donc moi, sport d'endurance, hein, vraiment, j'ai fait des sports de combat étant plus jeune, mais depuis quelques années, sport d'endurance à fond, course à pied, sur route, trail, cyclisme. J'ai essayé le triathlon, mais bon, je suis très très mauvais nageur. Ma femme, grande traileuse, avant l'arrivée des enfants, au niveau régional, elle faisait très régulièrement des podiums dans sa catégorie. Et donc, papa au foyer. Anciennement commercial, et ma femme de son côté, elle a une activité professionnelle bien bien prenante. Elle est cadre dans une boîte de prêt-à-porter où elle fait du contrôle de gestion, et donc elle a en Suisse des semaines à presque 50 heures de boulot, mais elle arrive quand même à s'entraîner à côté pour ses objectifs professionnels, sportifs pardon. Et donc on est parents de jumeaux, nos premiers enfants. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais bon, ça, c'est le ciel qui décidera. Mais oui, en effet, on a pris le temps de bien kiffer en tant qu'être individuel uniquement. Et comme on a pris notre temps, le ciel nous en a envoyé deux d'un coup.
Écoute, au moins, comme ça, hein, puis c'est une petite particularité. C'est un petit, vous pouvez faire des petits jeux, c'est un peu différent et tout.
C'est un challenge.
C'est un nouveau challenge. Et il faut le dire en plus parce que tu dis, tu fais du cyclo, tu dis que tu nages pas bien, mais bon, ça peut s'apprendre et tout. Mais par contre, ce que t'as pas dit, c'est quels sont les objectifs que toi, tu as et que ta femme est là, ce que vous êtes en train de préparer, en fait.
Ouais, on va commencer par madame. Donc, madame, quand elle a repris le sport à 6 mois après son accouchement, avec vraiment l'objectif, c'est une traileuse de base. Ça veut dire qu'elle n'aime pas la route, alors que moi, je suis venu au trail après l'avoir rencontrée. De base, j'étais sur Paris aussi, donc la localisation ne s'y prêtait pas énormément. Donc ma femme a, tout comme moi, pour avancer dans l'entraînement, on fonctionne par le biais d'une carotte. J'entendais récemment dans un podcast Mustapha Salmi, qui est coureur, un jeune coureur, youtubeur en même temps, avec des gros chronos, 1h04 sur semi, qui est devenu un athlète Puma, disait, pour m'entraîner, il me faut des gros objectifs, et pour atteindre mes objectifs, il me faut m'entraîner. Et nous, je pense, ma femme et moi, vraiment qu'on fonctionne comme ça, même si le sport fait partie de nos vies. Si demain, il y avait une interdiction de participer à des compétitions, très certainement qu'on n'aurait pas de motivation à aller s'entraîner. Du coup, ma femme, rapidement après son accouchement, elle a eu une carotte de se dire, il me faut un gros objectif. Et en tant que trailer, bah, le gros objectif, c'est souvent soit l'UTMB, soit du côté de la Réunion. Et elle s'est lancée le défi de faire la Mascareigne au mois d'octobre. Du coup, la Mascareigne, qui est presque 80 km de dénivelé, mais de 80 km plus 4 ou 5 000 mètres de dénivelé, je crois, à la Réunion. Et pour arriver à ça, on est en Alsace. Elle a, le 19 mai, elle a son premier 100 km, 120 km et 3 000 et quelques de dénivelé au Trail Alsace Grand Est by UTMB. Donc ce sera son premier ultra. Et moi, de mon côté, on en revient à cette notion d'âge. J'aime bien me lancer des gros défis. Chaque année, il me faut un gros défi. En 2018, c'était l'ascension du Mont Blanc. En 2019, c'était mon premier vrai trail. En 2021, bon, le 2020, c'était survivre au Covid. En 2021, c'était le premier triathlon. Et là, 2023, moi, je suis de janvier. Donc, en janvier 2024, j'aurai 40 balais. Et je me suis dit, tiens, juste avant 40 ans, si je pouvais faire un moins de 3 heures sur marathon, et pour ça, j'ai choisi le marathon le plus rapide du monde, celui de Valence. Donc, le 1er décembre 2024, j'aimerais faire moins de 3 heures.
Eh ben dis donc, ça c'est un truc. C'est un bel objectif. Franchement, moins de 3 heures au marathon. Ta femme, 80 bornes, à La Réunion. Pff, oh là là, c'est. En plus, ça vous fait un beau voyage. Vous partez tous en famille, là, vous partez à
Voilà,
4.
exactement, on part à 4. Ouais.
Et là, tu vois, généralement, on a toujours des cas où il y en a un qui court et l'autre qui gère un peu la logistique, etc. Et tout. Ce qui est le cas, en fait, chez vous. Parce que
Bien sûr.
y a bien une question de logistique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est l'organisation que vous avez choisie, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que j'en parlais justement avec Claude Papa, là, qui lui prépare l'UTMB, qui a l'occasion de rester à la maison, qui disait qu'il y a l'entraînement, il peut s'occuper de la maison, il peut s'entraîner pendant que les enfants sont à l'école. Bon, toi, à 15 mois, ils sont pas à l'école. Mais par contre, le
Non.
choix, c'était de les garder à la maison, plutôt que d'aller travailler et de les retrouver, de les déposer le matin à la crèche, d'aller les chercher ou d'aller chez la nounou. Comment vous êtes arrivé à vous dire, à faire ce choix, et comment tu l'articules avec la partie sport, en fait, tu vois, parce que préparer à courir un marathon entre moins de 3 heures, il faut un gros volume d'entraînement. Ta femme, pour
Ouais.
courir un 100 bornes et préparer un 80 comme la Mascarene, il faut du gros entraînement et tout. Elle a des
Oui.
heures de travail, peut-être un peu de route, etc. et tout. Donc, il y a une logistique qui doit être sacrément bien rodé. Moi, je vois déjà, j'ai une fille, je me dis, des fois, c'est un peu, hop, mais je me dis, avec deux, ça doit être un peu, des fois, pas si simple que ça. Donc, comment vous êtes arrivé à ce choix-là, en fait, et comment, toi, tu l'articules, tu vois, pour dire, bah, finalement, c'était le truc qui était tellement évident que c'est ce qu'on a choisi, quoi.
Eh ben, tu vois, la transition, elle est vraiment très bien faite sur le fait que le choix est apparu comme une évidence. Donc, pour parler de cette évidence, je vais revenir très rapidement sur ma vie en tant qu'enfant. Moi, mon papa, il n'était pas à la maison. Sans rentrer dans les détails, il était chauffeur de taxi sur Paris de nuit. Il avait le choix, au bout d'un moment, d'être chauffeur de taxi parisien, comment dire, durant la journée. Il a fait le choix. C'est compliqué à expliquer, mais bon, il ne voulait pas être à la maison. Donc, du coup, il travaillait de nuit et donc il n'a jamais été proche de nous. Il subvenait à nos besoins, mais on n'a jamais été complice avec lui. Et c'est vrai qu'il est décédé il y a bientôt 10 ans maintenant, donc en mauvaise relation, mais il a jamais été présent. Et ça, on le retrouve dans la bouche de mes frères et sœurs, on est quatre. Et tous, on a eu ce manque, à un moment, de cette complicité avec le papa. Donc moi, avant même de devenir papa, je disais, bah ça, on a tous des idées préconçues avant l'arrivée des enfants, je disais, moi, dans un monde parfait, avec mes enfants, bien sûr, je pense qu'il faut que je représente une forme d'autorité pour eux, mais putain, je vais être pote avec eux. Moi, je veux qu'on partage des choses. Et donc, partager des choses, ça veut dire leur donner de ma présence. Donc ça, c'était avant de devenir papa. Deuxièmement, et je reviendrai à ça après, sur ma pratique du sport. Moi, mes parents, immigrés algériens, pour eux, la réussite passait par les études. Le sport, c'était des écervelés. Et on voyait, à l'époque, moi, je disais à mon père, moi, je suis né en 85, donc mes premiers souvenirs de sport, c'était l'été 96. Entre l'Euro 96 et les Jeux Olympiques d'Atlanta, moi, je me régalais, surtout qu'on n'avait pas le droit de sortir. J'adorais. Mais moi, mon père me disait, ces gens-là, ils sont bêtes. Donc, regarde si tu veux, mais je faisais du judo, qui dans son esprit, c'était la rigueur. Mais moi, je voulais faire du foot. Et il m'a dit, mais regardez, ils ne savent pas parler, ces mecs-là. Donc, c'est hors de question que tu fasses du foot. Et moi, je rêvais. Peut-être que c'est une opposition à mon père, mais moi, ma réussite... Dans ma tête, elle passait, waouh, regarde les sportifs, les émotions qu'ils arrivent à procurer, tant aux supporters qui ne connaissent pas que leurs parents. Donc le sport a toujours eu chez moi une présence et une importance, mais fantasmée, parce que je pratiquais que peu. Et d'ailleurs, ça a eu comme conséquence que très rapidement, à l'adolescence, j'ai arrêté le sport jusqu'à mes 30 ans. Et je fumais, j'étais grassouillé, je mangeais de la malbouffe. Donc, tout ça mis bout à bout, quand je suis devenu adulte et que j'ai pris conscience, après son décès, que je pouvais vraiment avoir un grand contrôle sur ma vie, bah, je me suis tourné vers le sport. Et quand je suis devenu papa, bah, à 38 ans, je me suis dit, mais qui dit que quand on devient parent, il est presque inévitable que pendant une période plus ou moins longue, on ne fasse plus de sport. Donc, clairement, avec ma femme... Je pense qu'on a misé notre couple sur de la communication, une très grande communication, sans tabou. Et donc, elle et moi, avant de se rencontrer, on était sportifs pour notre équilibre perso. Quand on s'est mis ensemble, on a concilié notre amour du sport et nos emplois du temps pour se débrouiller à continuer à pratiquer. Et quand les bébés sont arrivés, bah, naturellement, hein, ils se sont ajoutés à notre quotidien et on n'a quasiment rien modifié. En revanche, je pense que j'ai une formation, comme je t'ai dit, de coach personnel et de préparateur mental. Je pense que la plus grande capacité du vivant dans son ensemble, c'est la capacité d'adaptation. Et donc, quand les bébés sont arrivés, OK, de manière pragmatique, on prend une feuille blanche. Qu'est-ce qu'on a comme impondérable ? Ton travail, s'occuper des bébés, avoir une vie de couple, OK, dans les temps morts, comme on fait pour s'entraîner. Et donc, du côté de ma femme, elle part un tout petit peu plus tôt de la maison. Elle part régulièrement à 7h, 7h15. Quand elle a de l'endurance fondamentale, elle va le faire soit le matin, soit selon ses journées, le midi, quand il n'y a pas de gros imprévus au travail. Le fractionné, elle va le faire quand elle va être disponible, quand elle a des longues pauses déj ou en fin de journée. Et moi, clairement, ma gestion des enfants, c'est exactement comme si j'avais un boulot. Moi, j'aime bien dire que je suis d'astreinte H24. Donc, je vais faire mon fractionné quand madame rentre à la maison. Je vais faire de l'endurance fondamentale en home trainer.
Ouais.
Ou maintenant, depuis qu'on est sorti de l'hiver et que les bébés sont assez costauds, bah, je vais faire mon endurance fondamentale en poussant le petit chariot de la marque. Je ne sais pas si on peut donner des marques.
Tu peux, parce que ça intéressera les gens de savoir d'avoir des équipements, parce qu'il y en a plein qui vont écouter en se disant ouais, mais comment on fait et tout. Hein.
Oui, bah clairement, la meilleure marque, je pense, c'est la marque, je ne sais pas comment bien la prononcer, la marque Tulle ou Tulle, suédoise, qui fait des grandes poussettes, des porte-vélos, des supports pour mettre des accessoires sur le toit des voitures. Donc clairement, c'est un investissement, mais ça n'a strictement rien à voir avec une poussette classique. Donc là, clairement, depuis quelques semaines maintenant, je sors vraiment doucement avec les bébés, donc les deux, dans ce, on appelle ça la calèche. Et donc, c'est moi le cheval. Donc, je pousse les bébés, je fais mon endurance fondamentale. Quand le temps est dégueulasse, bah, je fais beaucoup de home trainer à la maison. Et comme dans le cadre d'un travail prenant, bah, je fais mes séances de fractionné bah, quand ma femme est à la maison. Maintenant, je me projette. Le printemps arrivant, les enfants commençant à marcher et… Donc, c'est synonyme de beau temps, de jeu en plein air. Bah, on a une petite piste d'athlétisme juste à côté de la maison. Clairement, je m'imagine faire en journée mes séances de fractionné avec les bébés qui jouent autour du stade ou même carrément sur le terrain de foot.
Ouais, après avoir, effectivement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se projeter dessus parce qu'on se dit, ouais, est-ce que c'est possible ou pas et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai avec ma fille, on allait au parc et autres. Elle joue dans l'herbe, elle jouait dans des choses comme ça. Alors, on faisait plusieurs activités. Moi, je faisais beaucoup de renforcement à côté d'elle. Tu sais, elle passait dessous, ouais. Elle faisait des trucs comme ça. Et ça me rappelle, ce que exact. Tu dis, me rappelle exactement l'épisode qu'on avait fait. On avait parlé, j'ai perdu son nom maintenant, et on a parlé tout à l'heure, l'autre jour, en préparation.
Suzy.
Suzy, voilà. Suzy, sur le fait qu'elle avait commencé justement le renforcement en étant maman, en ayant le bébé juste à côté, ouais. En faisant des. Et vraiment ce truc-là, et il y en a beaucoup qui le savent, des parents et tout, parce que j'ai encore vu l'autre jour sur Instagram des gens qui le disaient, en disant, moi quand les enfants sont à la maison, quand ils sont petits et tout, le home trainer, ça me permet de rouler, d'être à côté, enfin de rouler, enfin de faire du...
Oui.
de pédaler, on va dire, au moins de pédaler et de rouler sur l'écran, mais en faisant une activité, en ayant les enfants à côté, même d'ailleurs quand ils grandissent, parce que là, bon, ils ont 15 mois, donc... Ça dort beaucoup encore à cet âge-là. Hein. On est encore dans le moment
oui.
où ça dort.
Oui, ça
encore
dort pas
beaucoup.
Mal.
Mais même après, sur où ils commencent à jouer tout seuls. En plus, ils sont deux, ils pourront jouer, ils peuvent s'occuper l'un l'autre et tout. Donc, on peut imaginer plein de trucs. À
ça commence.
Mais c'est vrai que sur cette notion-là, de cette décision-là que vous avez prise de dire, on n'arrête pas le sport et on garde du sport, on en a besoin et on va se fixer des objectifs. C'est déjà un choix que beaucoup ne font pas parce qu'ils s'effacent. Et moi, j'en ai en coaching qui, des fois, se sont effacés en disant « Non, non, maintenant, je ne suis plus que maman, je ne m'occupe plus… » Enfin, inconsciemment, qu'ils ne le font plus, quoi. Qu'ils disent « Non, non, maintenant, je ne me concentre que là-dessus. » Vous auriez pu faire ce choix, mais consciemment, vous avez fait le choix de dire « Non, non, il faut qu'on garde ces activités-là parce qu'on en a besoin. »
Pour nous, c'est indispensable. Donc là, c'est le premier aspect de comment comment nous réussissons à pratiquer… une grosse dose de sport parce que là c'est le ramadan à l'heure à laquelle on enregistre le podcast donc on a un tout petit peu moins de volume hebdomadaire mais avant le ramadan et ce sera encore plus vrai après on est très très souvent chacun à la dizaine d'heures de sport hebdomadaire donc ça c'est la première raison qui nous permet de pratiquer du sport en tant que parent. Pour nous, c'était indispensable. On vient, comme je t'ai dit, on est deux enfants d'immigrés algériens et on a vu, c'est pas lié seulement aux origines, mais on a vu nos mamans, en l'occurrence, n'être que des mamans. Ouais. Alors que nous, notre génération, on est des parents puisque c'est notre choix et on a un rôle à assumer, on aime être présent avec nos enfants, mais nous deux, on part du principe que pour être des bons parents, il faut être des individus épanouis. Ce qui n'était pas forcément le cas de nos mamans qui avaient, je reprends la phrase de ma mère après son divorce, « Moi, j'ai tué la femme que je ne suis plus qu'une maman. Moi, je touche du bois pour ne jamais être plus qu'un papa. Je ne veux surtout pas renvoyer cette image à mes enfants d'avoir tout sacrifié pour eux. Ben non, j'existe, j'ai des besoins et moi, ça passe par le sport. » Donc ça, c'est la première raison qui nous a… motivés, qui nous motivent au quotidien pour pratiquer encore une activité physique. La deuxième raison de comment on fait, j'en reviens à mon parcours. Moi, je rêvais d'être, j'ai eu un bac scientifique, et je rêvais d'être mécanicien dans une écurie de rallye. Ça veut dire que j'étais ma première passion vraiment de 12-13 ans jusqu'à mes 20 ans, c'était le WRC.
D'accord.
Et je rêvais de ça, sauf que moi, mon père, en tant que bon immigré algérien qui a galéré, il m'a dit, moi, je suis pas venu en France pour que mon fils il soit mécanicien. Lui, vous voyez, il y a rien de péjoratif, hein. Il n'y a pas de sous-métier. Mais moi, il voyait le gars qui change tes pneus à Noroto. Et je lui disais, non, non, papa, moi, je veux faire une école. Il y a une très bonne école de mécanique en sport automobile. Je me voyais faire cette école et potentiellement être ingénieur. Je pense que l'ingénieur de Max Verstappen en Formule 1 ou de Lewis Hamilton, c'est pas un mec qui a du noir sous les ongles. Et donc, il me disait, non, non, tu seras médecin, tu seras avocat, tu feras ce que je veux, moi. Donc la conclusion, c'est que quand ils ont divorcé après mon bac, bah ma mère qui est faite elle que d'amour, fais ce que tu veux tant que tu es heureux. Moi, mon père qui voulait à tout prix que je fasse quelque chose de très élitiste, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au sport qui pour lui n'était pas du tout un vecteur de réussite dans la société, bah dès qu'il est parti de la maison, bah moi j'ai arrêté les études. Donc voilà la conclusion de ça, c'est que moi, pour moi, le taf, ça a toujours été alimentaire. Même si j'ai des facilités, j'ai toujours eu des bons boulots. Quand j'ai voulu un travail, j'ai postulé et j'ai systématiquement été pris. Quand je suis rentré dans la fonction publique, j'ai passé des concours que j'ai eu du premier coup. Mais je n'ai jamais donné d'importance au boulot. Et donc, clairement, quand les bébés sont arrivés, que ma femme a été démarchée par une boîte en Suisse, donc qu'on a quitté Strasbourg, sachant que j'avais déjà quitté Paris pour m'installer en Alsace, quand on est arrivé donc à la frontière suisse pour favoriser la carrière de ma femme, bah, on a essayé la crèche. On s'est dit, est-ce qu'on va les mettre? Mais la réalité, c'est qu'on les a mis 3 semaines et un matin, et c'est le quotidien de beaucoup, j'ai conscience de ça et donc je ne porte aucun jugement sur le choix de chacun quant au fait de mettre les enfants à la crèche ou chez une nounou. Nous, donc, on a essayé, ma femme travaillait. Et moi, j'étais le parent qui s'occupait de la période d'adaptation des enfants à la crèche, et j'allais, si ça se passait bien, chercher un boulot. Et donc un matin, donc on a fait le test grandeur nature, l'équivalent de la dernière grosse séance avant un marathon, de savoir si ton allure que tu as simulée est la bonne. On a choisi de mettre les enfants de 8h à 18h30, une journée pleine, pour pouvoir voir comment ça se passerait en termes d'organisation. Et donc le matin, stressé, les enfants, alors qu'ils vivent à leur rythme là, à la maison, dépêchez-vous, non, s'il te plaît, Isaiah, c'est pas le moment, Aiden, Nanani, pour la première fois de leur vie, je leur mettais du stress pour arriver à l'heure à la crèche. L'un de mes deux garçons m'a agrippé le pantalon, il a senti un stress qu'il n'avait jamais ressenti. Je suis rentré dans la voiture en les laissant, moi j'avais les tripes qui saignaient. Je les récupère le soir à 18h30. Je rentre, c'est l'heure du bain, faut être en speed, faut leur donner à manger. Ok, je m'étais entraîné, j'ai eu le loisir de m'entraîner toute la journée, mais le soir, leur donner à manger, les doucher, essayer de passer un minimum de temps avec eux, de faire en sorte que la maman puisse arriver sans que je refile du stress. J'ai regardé les offres d'emploi, j'allais gagner, je crache pas dans la soupe, mais allez, 500 euros de plus que ce que je paierais à la crèche, sachant qu'ils sont deux. On arrive sur 1 500 euros quasiment pour une crèche mensuelle pour deux enfants. Ok. Là, la maman est rentrée le soir. Je lui ai dit, est-ce que tu es OK avec le fait que tu sois la seule à ramener des revenus et que je m'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école? Et voilà l'organisation. Elle m'a dit, bah oui, pour le bien des enfants, c'était ce qu'on avait ciblé de base. Vas-y, tu restes à la maison et on s'organise comme ça. Donc, naturellement, pour récapituler ce contenu qui est un peu long, n'ayant pas une carrière professionnelle de fou, parce que j'ai jamais eu de vocation au boulot, ayant une vraie sensibilité au sport et besoin du sport pour ma femme et pour moi, et ayant eu un manque cruel de la présence de mon père, naturellement, quand tu mets tout ça dans le shaker, bah, je suis un papa au foyer, tout simplement, et sportif.
Non, mais c'est vrai que c'est logique de dire comme ça, mais c'est un choix que pas grand monde fait. Alors, peut-être aussi parce qu'il y a une question d'équilibre où souvent les hommes gagnent plus que les femmes, et ça, c'est statistiquement
Certainement.
dans la société. Alors, vous, c'est totalement l'inverse.
Ouais.
Et ça, c'est aussi parce que vous avez la possibilité de le faire, le confort de
Bien
pouvoir le
sûr.
faire aussi. Mais c'est vrai que tu m'as donné une stat, le pourcentage de papas au foyer est très faible en France. C'est pas.
1,5% pour être précis. Ça veut dire que 1,5% des papas ont été ou sont papa au foyer à un moment dans l'éducation de leurs enfants. 1,5%. Et il y a une stat, je crois, je ne sais plus, je ne vais pas la donner parce que je ne veux pas dire de bêtises, juste par rapport aux 7 jours obligatoires. Donc, depuis 1 an et demi, je crois, le congé de paternité peut s'étendre jusqu'à 21 jours, 28 pour des jumeaux ou des triplés, et donc 21 jours. Dans ces 21 jours, il y a 7 jours obligatoires. Et je vais te dire une connerie, mais je crois que plus d'un papa sur deux, pour différentes raisons, ne prend pas plus que les 7 jours obligatoires. Donc tu te rends compte, là on est sur un papa sur deux qui reste que 7 jours à la maison. 1,5% des papas sont papa au foyer à un moment donné. Et ça, je le sais, c'est un, de par notre éducation, parce qu'on est des latins, et on a beau dire qu'on est dans une société qui prône l'égalité des sexes, moi je le vois tous les jours, hein, les toilettes, les tables à langer, 9 fois sur 10, sont dans les toilettes des femmes. Hein. Mmh. Très régulièrement, on me dit, hey, chapeau, c'est vous qui vous occupez, même dans mes proches, tu t'occupes des enfants, mais tu arrives à changer les couches. Attends, pourquoi ma femme y arriverait mieux que moi? Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas du tout une fierté, j'y arrive mieux qu'elle, parce que c'est juste la répétition des choses. Mais pourquoi ce serait aux femmes d'assumer toutes ces tâches relatives à l'éducation? Donc, on est dans une société latine, je vois, puisqu'on était à la frontière avec l'Allemagne, et c'est encore plus vrai d'après ce que j'ai lu dans les pays en Scandinavie, c'est dans la culture d'encourager que le papa ait plus qu'un rôle d'assistant, mais un vrai rôle d'acteur dans l'éducation des enfants. Et ça, ça passe par des mesures gouvernementales de « ok, sans regarder le genre, ni le papa ni la maman, d'ailleurs ça peut être deux papas ou deux mamans, qui décident « ok, bah pendant un an, jusqu'à 2 ans par exemple en Allemagne, eh ben on va échanger sans perte de revenus. Un coup, ça va être la maman, un coup, ça va être le papa, qui vont élever les enfants sans être impactés. Aujourd'hui, en France, on a quoi comme possibilité? Bah, si le papa, il décide de rester à la maison, bah, il va toucher son congé de la CAF ou, comme c'est mon cas, puisque j'avais démissionné, bah, rien touché, en vrai. Mmh. Donc, clairement, on a cette possibilité de par la situation de ma femme. J'ai pas de tabou, je vais parler argent. C'est un choix, même si on est confortable, que beaucoup n'auraient pas fait. Ma femme gagne grosso modo 5000 euros. Ça veut dire que aujourd'hui, on vit confortablement, mais on n'est pas des Américains non plus. Parce que si on divise ça par deux, ça fait que 2005 chacun. Beaucoup de couples ont ces 2005 chacun. Mmh. On n'est pas dans un confort où on peut se dire, toi, c'est facile, tu ne travailles pas parce que ta femme gagne bien sa vie. Oui, elle gagne bien sa vie si je travaille. Si je ne travaille pas, bah, on a une vie très normale en vrai.
Ouais. C'est vrai, et par rapport à... C'est vrai que tu dis avec des couples, avec des enfants, où les deux travailleraient, avoir des postes, des bons postes, etc. Ouais. C'est un choix de revenus, et c'est vrai quand tu le divises. En plus, deux jumeaux, alors attends, ça fait des... Je calcule même pas le nombre de couches que tu dois changer dans une journée, en fait.
Bah, ça... Ouais, on va dire sincèrement, bah, si les bébés ne sont pas malades, que le transit fonctionne bien, sans débordement... Sans vilain jeu de mots, on est sur une grosse dizaine de couches quotidiennes. Et là, par exemple, on vient de changer la poussette et les sièges auto. La poussette qui nous avait coûté, parce que quand tu as des jumeaux, le moindre trajet, aller à la poste, aller faire des courses, ça peut te prendre une demi-heure si tu n'as pas le bon matériel. Ouais. Par exemple, on a commencé au début à avoir les simples sièges auto que tu attaches avec la ceinture de sécurité. Si tu n'as qu'un siège auto à mettre comme ça, c'est jouable, tu le fais. Tu mets ton siège auto, tu prends la ceinture, tu arrives au magasin, tu enlèves la ceinture. Mais deux, tout devient vraiment, c'est pas multiplié par deux, c'est ce que j'expliquais à une amie. En vrai, c'est exponentiel. C'est tout prend beaucoup plus de temps. Et donc, bah, on a acheté des bases ISOFIX. Ça a un coût. Une fois que tu changes les sièges auto, comme ce qu'on a fait là, ça y est, ils étaient trop grands pour les sièges auto dos à la route. Donc, on a changé et la poussette et les sièges auto. Le siège auto, c'est 250 balles. Donc, 2 500. La poussette, c'est 300 balles. C'est tout de suite énormément d'argent. Et donc, oui, on ne se plaint pas. Mais... au regard des revenus de ma femme, on pourrait se dire 5 000, ils sont très confortables. Bah oui, mais on a fait le choix de se priver de 2 000, 2 500 balles de mes revenus en vrai. Et à côté de ça, elle gagne 5 000, elle est en Suisse, il y a beaucoup de prestations qu'elle n'a pas en France.
Ouais.
Et donc voilà, tout ça, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix et j'en suis fier, nous en sommes fiers. C'est un choix que beaucoup, beaucoup n'auraient pas fait. Ça, c'est sur l'aspect pécunier, sur l'aspect social. Beaucoup n'auraient pas fait. Ouais, j'ai pas de collègues. Les seules personnes à qui je parle, moi, c'est mes gosses de 15 mois. Et donc, j'entends des en guise de réponse. Et en plus, je fais des sports d'endurance, donc je m'entraîne, je suis tout seul.
T'aurais pu prendre un sport co.
Ouais, carrément. Mais du coup, beaucoup n'auraient pas fait ce choix. Et c'est pour ça que le message que je passe à travers ton podcast, c'est un message qui s'est imposée naturellement au vu de la réaction des gens. C'est en vrai, on peut être parent, faire du sport. On peut être papa et avoir plus qu'un rôle d'assistant dans l'éducation de ses enfants. Si on en ressent le besoin, on peut être rebeu de quartier et décider de changer les préjugés, les idées culturelles de c'est la maman qui s'occupe en tant que méditerranéen des enfants, c'est la maman qui fait le ménage, c'est la maman qui s'occupe de tout ça pendant que c'est le papa qui ramène l'argent à la maison. On peut vraiment, si ça nous apporte un équilibre individuel et collectif au sein du couple, prendre des décisions qui sont les plus importantes pour nous, en faisant fi de ce que la société ou ce que la famille pourrait dire, parce que j'ai eu des réflexions dans mon entourage qui me dit ce que tu fais, c'est ça se fait pas.
Oui, et puis en fait, tu disais l'histoire des tables à langer qui sont nettoyées des femmes systématiquement et tout, mais je pense que tu as des remarques de quand tu vas faire les courses dans les magasins, des gens et tout qui sont très étonnés et qui même doivent même pas se dire que c'est un choix. Peut-être que c'est un truc en disant il n'est pas le choix, ils ont fait ça et tout, mais alors que vous, c'est vraiment un choix, quoi.
C'est vraiment le fruit d'une réflexion, je sais, et il n'y a pas de mérite plus que d'autres, mais certains papas dans ce 1,5%, c'est quelque chose de subi. Maintenant, le fait que ce soit pas le fait que ce ne soit pas le papa qui soit l'initiative de ce choix, ça ne veut pas dire qu'il ne l'accepte pas et qu'il ne le vit pas bien. En revanche, clairement, la situation pour beaucoup d'entre eux, c'est subi de manière pragmatique. Par exemple, la femme qui a une carrière plus prenante que le papa, ou dans le cadre d'une mutation, d'une expatriation, de manière logique, je suis naturellement obligé de rester à la maison. Je parle par exemple, j'ai à l'esprit la sœur de ma meilleure amie qui vient d'être mutée avec un très 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 bon salaire aux Philippines. Naturellement, le papa, c'est lui qui va rester à la maison. Après, c'est pas des enfants en bas âge. Mais c'est à l'image d'une femme de footballeur, c'est... souvent, le papa va rester à la maison pour des raisons évidentes. Nous, c'est un vrai choix. Et donc, on le voit dans les réflexions. Je le vois dans les réflexions au quotidien. La première que j'ai à l'esprit, c'est parce que je suis fier de ce choix, c'était dans les toilettes du Décathlon de Gespolsheim, juste au sud de Strasbourg. La table allongée se trouve dans les toilettes féminines. Et il y a une dame, une jeune, qui rentre et sur le reculoir, elle me dit « Je me suis trompé de toilette ». Je lui dis « Non, on est dans une société où la table allongée est dans les toilettes des femmes ». Elle fait oh, « C'est magnifique de voir un papa s'occuper de ses enfants et tout ». Et je lui dis en plus, comme je suis fier, en plus, je m'en occupe au quotidien parce que je suis papa au foyer. Elle me fait « Waouh, c'est dingue, c'est magnifique ce que vous faites ». Je voulais lui dire « Mais est-ce que vous auriez donné une médaille et vous auriez eu la même réaction si c'était ma femme qui se trouvait là à cet instant ?» En vrai, il n'y a rien de formidable à ça. Et la deuxième remarque qui est toute récente, c'était à Leclerc, une caissière qui me voyait régulièrement et elle me dit « Excusez-moi d'être indiscrète, mais je vous vois tout le temps avec les enfants, vous les élevez seuls. » Pour elle, ça ne lui a même pas venu à l'esprit que ce soit un choix. Non, je ne suis papa au foyer. Pour elle, soit c'était une séparation, soit peut-être même pire. La maman était décédée, et donc la vie m'a imposé d'élever mes enfants seuls. Non, putain, c'est un choix. Et je lui dis non, je ne suis papa au foyer. Et là, en plus de l'étonnement de la situation papa au foyer de jumeaux, elle me dit, mais en plus, ce n'est pas commun chez vous que ce soit le papa qui élève les enfants. Et donc là, et c'est ça, comme je te disais un peu la dernière fois, c'est ce genre de regard sur ce que je suis, sur ma situation, qui m'a fait dire je tiens quelque chose. Papa au foyer de jumeaux, et elle savait même pas encore que j'étais sportif, d'origine rebeu qui élève les enfants pendant que maman travaille, là c'est vraiment pas commun. Et donc en cherchant 1,5% seulement des papas sont papas au foyer, mais j'imagine combien en plus continuent à pratiquer du sport une dizaine d'heures par semaine. Je sais pas, on doit être 0,1%. On ne doit pas être nombreux.
Ouais, j'ai trouvé une stat d'ailleurs, pendant que tu parlais là, en cherchant. Il y aurait 65% des hommes qui seraient prêts à devenir homme au foyer. Donc ouais. 65%, c'est un bon chiffre quand même. Mais en fait, il n'y en a que 4% qui prolongent leur congé paternité pour prendre un congé parental d'éducation. Que 4%. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a 65%. Alors, entre les 65% et les 4% qui finalement prennent le congé parental, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui est énorme. Et on va pas juger sur ce que, parce que on disait, hein, il y a des histoires financières. J'ai vu certains qui disaient, mais financièrement, on peut pas le faire, c'est pas possible, bien dans sûr. Les équilibres et tout, dans le quand c'est l'homme qui gagne plus, et des fois il y a des très gros écarts, hein, parce que on se rend pas compte à quel point il y a des écarts qui sont énormissimes dans la société. Donc c'est vraiment des vraies questions qui se posent. Il y a un livre en plus, on en parlait là, un livre qui est sorti sur un papa au foyer, mais alors qu'il lui a ouais. un choix, c'est lui, il fait pas de sport. Alors lui, il est parentalité positive, etc. Et c'est un autre,
oui.
c'est un autre domaine. Mais t'avais été surpris d'ailleurs parce qu'il disait qu'il n'avait pas fait de sport et tout.
Complètement. J'ai été surpris. Ben, malheureusement pour lui, même si je le suis et qu'il est un petit peu la star des papas au foyer, ça peut se comprendre. Il était tout jeune quand il est devenu papa. Je crois qu'il avait 23 ans. On parle de Samuel Clos.
Ouais.
Il a fait le choix 21 fort.
Ans. 21 ans, il est devenu papa.
Tu vois, ouais. encore plus jeune. Donc déjà, c'est de nos jours, c'est pas commun. On est parents de plus en plus tard. Donc il a fait le choix. Il était étudiant en médecine. Il a fait le choix de rester à la maison. Un choix. J'en doute pas et j'adorerais vraiment échanger avec lui sur ça, justement. Est-ce que c'est 100% le fruit d'une réflexion ou est-ce que c'est un petit peu subi parce que j'ai découvert que sa femme avait, je crois à ce moment-là, aujourd'hui c'est une certitude, une entreprise florissante avec plus d'un million de followers sur Instagram. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans le cas de figure où naturellement, d'un point de vue carrière, est-ce que c'était pas naturel que bah, le papa qui était en études arrête tout? Donc, j'adorerais échanger sur lui à ce sujet, mais j'ai été surpris puisque son livre est sorti il y a quelques semaines et je l'ai écouté sur une intervention sur une radio régionale dans le sud-ouest, je crois, où il disait « Bah maintenant, je suis papa au foyer, mais la donne a changé un petit peu. Mon fils est rentré à l'école, donc maintenant, je peux reprendre le sport. » Et je me suis dit « Ah non, mon gars, en plus, t'as qu'un seul enfant. Est-ce que le sport était… » important dans ta vie, je pense qu'il pratiquait avant puisqu'il a dit je peux reprendre le sport et non pas je peux me lancer dans une activité physique. Et donc, moi, le message qu'il a renvoyé, puisque comme je t'ai dit, j'ai une formation de préparateur mental, ce qu'on dit, ça a une résonance chez les gens. Et donc, le message implicite qu'il dit, c'est je faisais du sport avant d'être papa, mon fils est arrivé, mon enfant est arrivé, je crois que c'est un garçon, mon enfant est arrivé. Tant que j'étais à côté de lui, H24, je ne pratiquais plus de sport, peut-être parce que je ne pouvais plus en pratiquer. Et maintenant que j'ai du temps pour moi, je peux à nouveau repratiquer. Mais je ne veux pas entendre ce message. C'est je ne veux pas l'entendre. Si le sport est important pour nous dans notre vie, on ne doit pas ne plus en faire. Et en revanche, et c'est là qu'il faut prendre le temps de regarder ce qui est important pour soi, des ressources qui sont à notre disposition et de communiquer avec son partenaire de manière concrète, comment on peut pratiquer. Parce que tu parlais de renforcement, moi, mes enfants, quand ils marchaient pas, quand ils se déplaçaient même pas à quatre pattes, j'adorais, les mettre sur le dos et faire mes pompes en descendant et en leur faisant des bisous. Quand ils commençaient à se mettre à quatre pattes, ils s'amusaient à passer pendant que je faisais la planche en gainage, ils passaient sous moi. Maintenant que Hayden, lui, il marche, je m'amuse à faire des fentes et à essayer de le rattraper. Donc, si on veut, si c'est important pour nous, on peut faire les choses. Et c'est vraiment ça le message que je veux passer. C'est pas… Certes, la parentalité, tout est question de choix. Je ne veux pas faire trop de philosophie. Là, je fais le ramadan, c'est un choix. Je suis né musulman, mais je peux décider de ne plus être musulman. Je fais le ramadan. J'ai toujours, même à l'époque où je travaillais pour un patron, parce que moi, là, aujourd'hui, je travaille pour mes enfants, mais je travaille quand même, je suis d'astreinte. La preuve, je me suis levé trois fois cette nuit et j'ai fait le choix. Moi, je préfère, même si j'ai adoré l'un des tout derniers podcasts que tu as fait sur le sommeil, j'ai appris énormément de trucs. Clairement, je suis un loup et ma femme, c'est un ours. Et ça, c'est une parenthèse. Clairement, ça nous va très bien parce que, par exemple, nos journées, c'est elle qui se lève très tôt le matin pour les enfants. C'est moi qui me couche très tard. Et entre ça, j'accepte d'être plus ou moins fatigué dans la journée. Par contre, en période de Ramadan, clairement, je me couche plus tard pour pouvoir boire. Je préfère être fatigué la journée, mais j'ai eu des Ramadans où j'étais déshydraté. C'est un calvaire, j'ai envie de mourir. Donc, je fais le choix, tout est question de choix, d'être un peu fatigué la journée, mais de boire jusqu'à tard. En l'occurrence, je me suis couché à 2 heures et je me suis levé à 7 heures et je me suis réveillé 3 fois cette nuit.
Oh
Et j'ai une séance de home trainer que mon coach m'a pondu, une grosse heure d'endurance que je ferai juste avant de rompre le jeûne ce soir sur les coups de 17h, 17h30 jusqu'à 18h30. Et entre-temps, bah, je m'occupe des enfants. Je peux montrer, je ne sais pas si les gens regarderont, juste avant de t'avoir eu au téléphone, j'en ai profité pour tout lever et passer la serpillière. Les bébés sont à la sieste là, et voilà mes journées. Donc c'est un vrai choix. C'est juste pour dire que on est maître de ses choix. Il suffit juste d'être honnête avec ce qui est important pour nous. À partir du moment où moi, je compare toujours, je suis désolé, en plus le Ramadan fait que tu parles beaucoup, je compare toujours la vie à une balance. Ok, je regarde mes ressources, je regarde mes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans chaque plateau? Aujourd'hui, dans mon épanouissement, le sport est indispensable. Donc, c'est le plus lourd. Quand je regarde à côté, oui, mais le temps que je passe pas, et donc là, c'est tout ce que la société me dit, notamment mes amis proches, tout ce que je regarde à côté, ouais, mais je vais être fatigué. Oui, mais est-ce que la fatigue, le sommeil en l'occurrence, est plus important dans mon épanouissement que le sport? Non. Eh bien, à l'instant où j'arrive sur cet équilibre ou ce déséquilibre, ce constat de me dire le sport est plus important pour moi, je ne me pose plus la question. Et le jour où je suis KO, bah, je ne suis pas professionnel. Et à nouveau, je parle d'adaptabilité, bah, je dégage ma séance et je me repose tout simplement. Et je le vis très bien.
Ce qui est intéressant, c'est que je recherchais tout à l'heure les articles sur Samuel Clément. Donc, a priori, t'es pas au rang d'études de médecine. C'est aussi pour ça ils ont fait ce choix et tout et autres. Et en fait, il donne un terme qui s'appelle le dad blessing, c'est-à-dire qu'on estime que c'est la fierté, enfin, héroïque, que c'est héroïque pour un homme de rester à la maison, alors que
Impressionnant.
comme tu le disais, c'est pas du tout le cas pour les femmes. Donc en fait, t'es extrêmement féministe en fait, c'est-à-dire que
Ah, mais à fond.
sur un équilibre mais en fait qui est vraiment super intéressant. C'est pour ça que c'était vraiment intéressant de t'avoir dans le podcast, parce que c'est à quel point des fois il y a des discours en disant il faut de l'égalité, il faut aller là-dessus, etc. Mais on voit qu'il y aura un gros, gros, gros changement qui est important. On voit qu'il y a des pays qui se posent la question. D'ailleurs, tu parlais des
Bien
pays
sûr.
nordiques. On peut parler de l'Espagne qui aussi réfléchit beaucoup à ces questions-là. Et on voit que, il y a des pistes qui sont avancées sur les congés, notamment pour les papas, sur
Ouais.
l'obligation, sur le fait de le rendre obligatoire pour dire que c'est pas une option, mais qu'en le rendant obligatoire, ça
Exactement.
équilibre entre les deux sexes et que finalement, il n'y a pas la pénalisation, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des patrons qui disent oui, mais si j'embauche une femme, elle va être en congé maternité, après elle va être
Ouais.
arrêtée et tout. Et le fait de se dire, bah oui, mais t'embauches un homme, il sera aussi
Ce sera la
en
même
congé
chose.
paternité parce que on remet de l'équilibre de cette manière-là. Il y en a beaucoup qui ne le réfléchissent pas comme ça. Et c'est vrai que après, je conçois aussi qu'il y a des hommes qui aient du mal à rester à la maison et tout. Moi, je l'ai vu dans l'entourage, des hommes, comme tu disais, encore pris après 5-6 jours de. 5-6 jours de Lego, on va dire, qui derrière ont
Ouais.
repris, d'autres qui décalent un tout petit peu, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies grandes discussions, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce prisme-là, de se dire qu'en plus, ton choix, ça t'empêche pas en même temps de garder la notion de faire du sport, que avec ta femme, vous ayez des objectifs sportifs qui sont
Ouais.
pas des petits objectifs, parce que, tu disais, la Mascareigne, c'est 80 km du dénivelé. Toi, tu prépares un marathon en moins de 3 heures, donc c'est
Ouais.
une dizaine d'heures d'entraînement. Même
Ouais.
si tu as des facilités sportives, même si tu as plein de trucs, enfin, n'empêche que il faut les faire. Il y a de la fatigue qui est liée à l'entraînement. Il y a les questions de récupération. Il y a tout un tas
Bien
d'organisation aussi.
sûr.
J'imagine même pas la logistique que ça va être pour partir sur les courses, sur comment, parce que tu disais le sommeil, je peux m'en passer et tout, mais bon, veille de course, le sommeil et la semaine, il va falloir faire attention sur les prépas, etc. Donc, ça montre que, en fait, la logistique globale de ta vie d'athlète, j'ai envie de dire, et là, je dis vraiment vie
Ouais.
d'athlète, il y a un cumul, mais alors, bien sûr, avec des choix, avec des moments où ça passe pas, enfin, où tu disais, il y a des moments où il vaut mieux dormir. C'est difficile de dormir et de tout faire en même temps.
Oui.
Et puis, des fois, tu auras d'autres. tu vas rentrer en mode prépa, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en mode prépa, il va falloir ajuster, quoi.
C'est exactement ça. Et moi, je dis, et tu le dis, mais c'est pour ça que ça, c'est comme ça que j'ai connu ton podcast. C'est sur l'une de tes punchlines de présentation. C'est tu es champion du monde de ton monde. Mmh. Et moi, je rebondis sur ce que tu as dit. J'aurais potentiellement des facilités. Non, moi, j'ai tellement pas pratiqué de sport, Bertrand. J'étais grassouillé. J'ai toujours été le nul. Et j'adore avoir été nul en sport étant plus jeune, parce que ça me permet aujourd'hui d'être champion du monde de mon monde et de ne jamais me comparer aux autres. Vraiment. Moi, mon but, c'est d'être une putain de machine vis-à-vis de moi, vis-à-vis du jeune con. Mon père, quand je dis le « on », interdisait de pratiquer du sport parce que c'était pas du tout un vecteur de réussite. Donc, j'ai toujours été nul. Moi, mais j'ai des potes qui ont failli signer pro en foot. J'ai un pote qui a été champion de amateur, champion de France amateur de boxe. C'était boxe américaine, je crois. Donc, j'ai des gars autour de moi qui sont des vraies machines de guerre. Mm. Moi, pour courir mon premier semi-marathon en moins d'1h30, il m'a fallu m'entraîner d'une manière que si mon pote, mon meilleur pote, s'entraînait de cette manière-là, il aurait fait 1h20. Donc, j'ai aucune facilité. Ça, c'était la petite parenthèse par rapport à ma pratique du sport. Et c'est ça que j'aime. C'est que comme j'ai pas de facilité, tais-toi et va travailler. Et donc, ça me pousse à aller m'entraîner. Et c'est vraiment moi contre moi. Pour revenir sur la logistique, là, je vais parler à titre perso. Je suis champion du monde de mon monde. Je me prends vraiment pour un pro. Je regarde les techniques de récupération, je regarde la nutrition parce que je suis mauvais. On m'a interdit de faire du sport et donc le sport professionnel me faisait fantasmer. Moi, ma première idole, c'est Hicham El-Guerrouj. Si j'avais pu être Hicham El-Guerrouj, je voyais la fierté de tout un peuple. Le petit prince, mais moi, il me faisait kiffer. Et donc, je vois tout ça. Donc, j'essaye d'optimiser le moindre truc à côté. D'ailleurs, là, clairement, pour le marathon de Valence, en moins de 3 heures, je vais essayer d'aller gratter des mini sponsoring parce que je suis persuadé que si une marque derrière s'associe à un papa avec tout ce qu'on a mis en avant, un papa au foyer qui véhicule, qui peut être papa au foyer et faire du sport, je suis persuadé qu'il y en a qui se reconnaîtraient dedans. Maintenant, pour revenir de manière très concrète à comment on fait. Bah oui, en phase d'entraînement, je suis champion du monde de mon monde, mais mon monde, c'est quoi? Mon monde, c'est mes enfants. Ça veut dire que si demain, j'ai une énorme séance de fractionné, mais que les bébés m'ont fait vivre une nuit d'enfer, j'ai deux possibilités. Soit je fais quand même ma séance de fractionné en acceptant que je sois moins performant, sachant que, comme je t'ai dit, j'adore le sport, la préparation mentale, donc je me suis renseigné. Si tu dors très bien 7 jours et que tu as une nuit de merde avant ton épreuve, ça pose aucun problème, hein, mis à part les facultés cognitives. Hein. Tu réfléchiras peut-être moins bien, mais d'un point de vue sportif, tes performances ne seront pas impactées. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas définir ce qu'est la performance? Mais donc, admettons que je dors mal, soit je fais ma séance de fractionné, soit je la reporte. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comme j'ai dit, dans notre couple, la communication, elle est essentielle. Et comme on est tous les deux sportifs, souvent mes potes, qui n'ont pas cette chance, parce que c'est une vraie chance d'avoir une partenaire sportive et qui acceptent donc leur pratique du sport par amour sans la comprendre. C'est ça qui est fondamental. Moi, ma femme et moi, on comprend l'importance que le sport a chez l'autre. Et donc, ma femme, moi, toute la semaine, je fais en sorte qu'elle n'ait pas à se réveiller. C'est elle qui ramène les sous à la maison. C'est elle qui nous offre financièrement la vie qu'on a. Donc, c'est mon travail en astreinte, H24, de gérer les enfants. Et donc, clairement, je me réveille. Maintenant, l'année dernière, j'ai eu ma première cyclo. Il n'y avait pas du tout d'objectif de chrono, mais c'était une vraie cyclo à côté de chez nous. C'était une épreuve digne de l'étape du Tour. J'ai eu 138 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Je cherchais juste à la finir. Et donc, j'angoissais. La nuit précédente, on avait convenu, chose qui est très rare, que c'est ma femme qui se lève. Et moi, clairement, j'ai même dormi dans la chambre d'amis qui est plus éloignée de la chambre des bébés. C'est ma femme qui s'est levée. Donc, 9 fois sur 10, je m'occupe des enfants, mais comme on est deux sportifs ayant pour but quand même de performer et qu'on comprend l'importance du sommeil, de la nutrition, des trucs comme ça, la veille de la course de l'autre, on fait tout pour qu'il soit dans les meilleures dispositions.
Ce qui est intéressant, c'est que tu montres exactement la démarche de l'athlète pro, sans être pro en fait, ouais. C'est-à-dire ce que j'appelle l'athlète du quotidien, tu sais, c'est en fait comment Parce que l'objectif, c'est d'être en forme pour soi, être en forme pour tes enfants, pour ta femme, oui. Et c'est toutes ces notions-là. Et on voit, c'est là où je répète que la philosophie SAM, sommeil, alimentation, mouvement, et tout ça, vient aussi pour qu'on soit en forme pour réaliser nos projets, qu'ils soient professionnels, sportifs, familiaux, être en forme pour pouvoir tout faire. Et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Et que la démarche aussi de l'athlète pro, aussi, c'est d'optimiser par moment, par endroit, ce qu'on peut optimiser. Et tu le dis, sur une nuit de sommeil, tu as une optimisation qui va se faire. De même que j'imagine que ta femme, avant de faire son 100 bornes sur... alors c'est quoi? C'est l'UTMB Alsace, hein, c'est ça qu'elle va
c'est
faire
ça.
Là, encore plus ces jours-là, il va falloir gérer le sommeil pour pas pour qu'elle fasse des bonnes nuits, pour gérer la récupération, etc.
Ouais.
Et c'est ces moments-là, alors à gérer, mais on rentre effectivement aussi dans la notion d'athlète pro pur et dur, mais en étant sans être pro, puisque elle a une activité professionnelle, parce que c'est pas du repos, quoi, d'être à la maison, hein, pour tous ceux qui sont à la maison avec leurs enfants.
Que j'étais
le savent.
Moins fatigué quand je bossais, j'avais mes moments de pause, j'avais des pauses mentales à rigoler avec des collègues. J'aime mes enfants, j'aime la vie que je mène réellement, mais dresser un portrait tout rose de cette situation, c'est hypocrite, ce serait justement véhiculer que tout est parfait. Non, je n'échangerai ma vie pour rien au monde, mais c'est pas pour autant que tout est drôle. Quand je me lève 8 fois dans la nuit parce que bébé 1 réveille bébé 2, bébé 1 est malade et il pourrit la nuit de bébé 2 et du coup ça pourrit ma nuit et que j'ai quand même le stress parce que je sais que le lendemain ma femme a d'énormes réunions, je veux pas qu'il réveille maman, donc c'est pas tous les jours très drôle, mais pour autant c'est une vie géniale, mais on est obligé d'optimiser. On est obligé d'optimiser. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le parcours, sur les prochains jours, sur les jours précédents, la course de ma femme, on a même convenu que la nuit avant son grand trail, elle ira dormir chez sa mère. Comme ça, je suis sûr que la maman, ma belle-mère, chouchoutera ma femme. Elle n'aura pas les enfants qui la réveilleront. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'on aime nos enfants, mais c'est... J'aime pas ce mot, mais moi, j'ai aucun tabou. Par moment, ça peut être une contrainte choisie, une contrainte assumée. Mais contrainte, quand on regarde la définition, je suis pas maître Capello, mais une contrainte, c'est quelque chose qui vient potentiellement chambouler ou alourdir une situation. Et donc là, la veille d'une course qui s'annonce très longue, qui par essence même est un vrai challenge, donc qui correspond à quelque chose qui va présenter d'énormes contraintes, notamment d'inconnus, viens, on élimine au maximum la fatigue. Et ça passe par le fait de faire une bonne nuit, dors chez ta mère, je m'occupe des enfants, et je te fais ton assistance, et je t'apporte l'équivalent d'une tasse de café ou d'une canette de Red Bull, le boost de voir tes enfants sur tes points de ravitaillement. Ça, ce sera génial. Mais oui, on est obligé d'essayer d'optimiser, à l'image d'un pro. Il y a Nicolas Navarro, l'un des tout meilleurs marathoniens français, qui est papa d'un petit Nino, son fils, donc je suis naturellement les deux, lui et sa femme, qui tient, on est lundi au moment de l'enregistrement, hier sa femme est devenue championne de France
de marathon. Ouais, incroyable. Hein.
Dix mois après son accouchement, les deux donc sont des athlètes pro, très élites. Florian est quand même... championne du monde de 100 km avant d'être enceinte. Donc, je les écoute régulièrement dans des podcasts ou sur Instagram. Les deux, Nicolas a expliqué que la veille d'une énorme séance, c'est Florian qui s'occupe plus de leur enfant. Ils ont décidé, je le comprends puisque c'est deux pros, ils ont décidé de mettre leur enfant en crèche. Je ne connais pas l'amplitude, mais il semblerait que ce soit que sur des demi-journées puisque Nicolas a expliqué que après ses grosses séances du matin, il allait chercher son enfant à la crèche. Je suis persuadé que si, de par leurs objectifs, d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais, les deux ne courent pas des objectifs en même temps.
Non.
Parce qu'ils ont ce relais naturel. Et donc, je suis persuadé qu'il y a des jours où le petit Nino ira à la crèche plus longtemps si papa et maman ont un entraînement important quasiment simultané. Et donc, tout est question d'équilibre et de communication, en vrai.
Mais c'est vrai que c'est un exemple qui est intéressant, Nicolas Navarro et Florian Hott, justement parce que elles viennent d'être, donc on l'a dit, hein, championne de France du marathon, c'était à Saint-Tropez ce week-end. Lui, il a un niveau où le but du jeu, c'était quand même de dire l'objectif, c'est plutôt les Jeux Olympiques qu'autre chose. Donc là, on est quand même sur du sommet du sommet, qui prouve d'une manière ou d'une autre que c'est possible. Et alors, il y a un autre exemple qui est hallucinant, parce que là, ce week-end, on a tous parlé de la Barclay, avec la Barclay, la finisheuse. La finisheuse, elle est maman de deux enfants. L'anglaise, qui est la première femme à finir la Barclay. Ouais. Il faut le dire, hein, il y a que 20 finishers de la Barclay sur des centaines de participants qui sont tentés. Cette année, c'était plusieurs à finir. Et la seule femme qui a réussi à finir, elle est maman de deux enfants, quand même. Mais donc, ce qui veut dire que, alors, je sais pas quel âge ils ont, etc. et tout. Je connais pas son parcours par cœur, mais on a eu des exemples et on a eu aussi entre elles, on le voit et autres. On a ces questions-là de maman qui arrive à reprendre le sport. On le voit aux Jeux Olympiques. Ouais. Il y a des discussions qui sont en train de se faire sur comment accueillir les enfants dans le village olympique. Est-ce qu'on peut les accueillir, pas les accueillir? On voit que l'équipe de France de foot est en train de, chez les femmes, est en train de se mettre un peu au niveau en disant, bah, on se rend compte que les Américaines, elles venaient avec les enfants, qu'il y a des nounous, des garderies, qu'il y a tout organisé pour qu'elles puissent venir avec les enfants, les joueuses américaines, sur les compétitions, pour qu'elles soient en forme, et ça les a pas empêchées d'être championnes du monde. Donc, il y a toute cette logique-là, la parentalité qui est en train de se mettre dans le sport de haut niveau, mais qui demande une organisation, mais où on voit que l'organisation, elle est trouvable, en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pensait que c'était pas possible. Que c'était vraiment impossible. Alors, quand on facilite les choses, et on sait que les athlètes de haut niveau, en plus, c'est super compliqué pour eux, parce que des fois, ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs propres besoins. Alors, si on rajoute derrière les enfants, ça devient compliqué. C'est là aussi où il faut se dire que les conditions que certains athlètes ont pour pouvoir arriver à faire le sport leur permettent de le faire. Et ce sont des bons exemples aussi, parce que ça veut dire que ça ne ferme pas des portes, en fait. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'athlètes, y compris olympiques, championnes du monde, dans plein de sports, qui ont réussi à mener cette carrière-là. On le voit moins chez les femmes, parce qu'il y a ce côté-là aussi de la pause de la maternité, la reprise du sport, la perte de niveau, l'orientation. Et puis aussi, il y a des contraintes, il faut le dire, je pense, sociétales, qui sont aussi assez fortes. Et certaines mettent une croix dessus, où on repousse très tard, etc. Mais on voit quand même que c'est en train de bouger. Dans le sport de très haut niveau, et on va se dire, une sorte de ruissellement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
Oui, clairement, l'image est bonne de toute façon.
D'essayer de montrer un peu cette image-là, que le sport de haut niveau montre que c'est possible, et que si on descend un peu dans les couches, effectivement, nous tous, on peut aussi se dire qu'on peut continuer à faire du sport, mais c'est une question d'organisation, et qu'on en revient sur cette logique-là de dire il y a une organisation qui est très athlète, en fait. On est tous des athlètes du quotidien. Il faut le gérer avec nos contraintes. Et qui est champion du monde de son monde, comme tu disais, c'est ça, en fait. C'est vraiment trouver cet équilibre-là. Et tu sais, un jour, dans un épisode, j'avais parlé de handicap, mais façon golf, tu sais. De dire, comment est-ce qu'on pourrait juger la performance de quelqu'un qui fait un marathon en 4 heures, en 5 heures ou en 3 heures, par rapport, en fait, aux contraintes d'entraînement, à ce qu'il a à côté. Il y en a certains qui vont dire oui, mais tu fais un marathon 4 heures, c'est lent. Tu dis oui, mais je fais, j'ai eu des enfants, j'ai un travail, j'ai ça. Est-ce que toi qui n'as rien à côté, finalement, tu as du mérite à faire ton truc en 2h30, tu vois, je dirais, pour certains cas. Ouais. C'est une grande discussion. Et tu vois, on pourrait le dire aussi dans ces cadres-là, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on a dans nos quotidiens qui font que des fois c'est compliqué, des fois c'est dur. Mais qu'on peut aussi trouver certains équilibres et que tu prouves que vous pouvez trouver des équilibres.
C'est exactement ça et c'est fondamental. Et tout à l'heure, je t'ai dit, et encore, faudrait-il définir ce qu'est la performance ? Mais là, tu parles exactement de la performance. Donc, en tant que préparateur mental, ce n'est pas un cours que je vais faire, mais je vais juste redéfinir ça. Et après, ça va justement, j'espère, avoir un impact, une résonance de par ce qu'on a décidé de faire avec ma femme, mais un vrai impact sur tes auditeurs. Qu'est-ce qu'est la performance ? Il y a selon le modèle de Gilbert, j'ai pas été creusé qui est Gilbert, mais selon le modèle de Gilbert, la performance, elle est au centre d'un triangle dont les trois sommets sont ton objectif, ton résultat et tes ressources. Ça veut dire que la performance pour un individu, selon les périodes de sa vie, elles seront pas les mêmes. Courir un marathon en 4 heures pour moi il y a 10 ans, quand je fumais et que je mangeais un kebab par jour, c'était une vraie performance. Donc si je me fixais comme objectif 4 heures et que je courais 3h50, que je m'entraînais quasiment pas et que je bouffais que de la merde, excuse-moi d'être vulgaire, atteindre cet objectif, c'est une sacrée performance. Je suis le même individu, 10 ans plus tard. Mon meilleur semi-marathon, c'est 1h29. Je m'entraîne malgré la contrainte des enfants. Si aujourd'hui, je me fixe comme objectif 4 heures, même si je fais 3h30, ça n'est pas du tout performant. Donc ça, c'est la performance. Et donc, si on met ça en comparaison entre deux individus, un sportif qui a été sportif toute sa vie, qui vise 3 heures au marathon, et quelqu'un qui est un ancien obèse ou quelqu'un qui sort d'une maladie longue ou quelqu'un qui a été clairement sédentaire et qui vise même pas un chrono pour son premier marathon, simplement être finisher, bah, je vous laisse répondre à la question. Selon vous, quelle personne qui atteindra son objectif est la plus performante des deux? Moi, ma réponse, c'est certainement l'ancien sédentaire ou celui qui sort d'un long cancer et qui termine même en ayant marché du kilomètre 0 au kilomètre 42, clairement. Donc ça, c'est cette notion de performance. C'est ça la vraie, selon moi, notion de performance. Le regard de l'atteinte de l'objectif par rapport à la définition de celui-ci au regard des ressources dont l'athlète dispose. Et les ressources, elles sont, mais dans toutes les sphères de ta vie, le temps, l'argent, quelqu'un qui, son compagnon, gagne 20 000 euros mensuels. Et donc, la personne qui peut rester à la maison, mettre les enfants à la crèche, aller chez le kiné tous les jours, avoir un coach personnel, bah, il a les ressources d'un sportif professionnel. Quelqu'un qui est papa au foyer, de jumeaux, qui doit essayer d'optimiser sa récupération au max avec des moyens gratuits parce qu'ils ne sont pas milliardaires, bah, je parle pas de moi, hein. Mais bah, la performance, s'il atteint son objectif de marathon en 3 heures, bah, ce mec, selon moi, il peut être sacrément fier. Et il pourra être champion du monde dans son monde. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si vous avez un boulot prenant, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas été forcément sportif par le passé et que vous vous fixez un objectif, bah, si vous êtes fier et si l'objectif est vraiment challengeant, ça veut dire que vous n'avez que deux créneaux d'une heure pour vous entraîner, bah, fixez-vous un objectif au regard de ça, ne fixez pas un objectif par rapport à ce que fait le voisin. Mais si vous l'atteignez, putain, soyez fiers. Si ça correspond à un marathon en 5 heures, c'est grandiose. Soyez fiers de ça, en vrai. Parce que c'est vraiment au regard des ressources dont vous disposez. Allez pas vous comparer aux autres, ça sert à rien.
Mais c'est important de dire, parce que c'est vrai que, en plus, les réseaux sociaux ont une tendance à déformer. On voit ceux qui courent plus vite, ceux qui font du plus long, etc. L'autre jour, j'ai commencé à écrire dans un truc, mais je ne l'ai pas publié pour l'instant, mais de dire que il y a beaucoup de gens qui vont de plus en plus long. Là, on parlait de trail, d'ultra-trail, etc. Mais on n'est pas obligé d'aller dans l'ultra-trail. On n'est pas obligé de vouloir faire du plus rapide. J'ai vu des gens qui, ce week-end, font des petits trails 12, 13 kilomètres, mais qui en font plusieurs dans l'année, qui vont faire un 10 kilomètres, qui vont faire des trucs qui ont mis une croix, même d'ailleurs. J'ai eu des anciens invités, j'ai vu l'autre jour, qui ont mis une croix en disant, ouais, marathon, par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mon objectif, par rapport à ce que je suis capable de faire, c'est trop pour moi maintenant. Je veux pas faire ça. Je me concentre sur des courses plus petites, etc. Et par rapport aux ressources qu'ils ont, par rapport aussi au plaisir qu'ils prennent, par rapport à leur vie de famille, leur vie de pro et tout, et ben c'est ça le plus important, en fait. C'est d'arriver à se dire, je trouve des objectifs que je peux préparer, qui me challenge parce qu'ils vont me permettre de progresser, dans lesquels je vais prendre du plaisir, et qui vont permettre aussi de garder cette activité, d'avoir cette organisation, d'avoir cette gestion de l'organisation, ce qui est pas simple, parce que il y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui dis, alors t'es prêt pour ta course? Il me dit, bah, finalement j'y vais pas. Pour telle ou telle raison. Une fois, j'ai quelqu'un en préparation mentale, une femme, il me dit, moi, je culpabilise. Si je prépare des plus longues distances, je culpabilise de m'entraîner plus. Et on a tous ces discours-là de dire comment je peux faire, comment je peux gérer ça et tout.
Bien sûr.
C'est intéressant de voir aussi les exemples, de voir aussi, de se dire, bah, tiens, il y a des gens qui ont choisi de faire telle ou telle manière. Il y a des gens qui ont choisi de faire telle manière. Et on en parlait l'autre jour. Je pense qu'il y a aussi la valeur qu'on met dans le. À quelle importance a le sport pour nous et quel exemple on veut donner à ses enfants, Parce que c'est vrai que l'exemple dont on parlait, tu parlais de l'exemple des mamans algériennes et tout,
oui.
Par rapport à ce que à vous, l'image que vous avez envie de donner, par rapport à toi, l'image que tu as par rapport à ton père et toi, ce que tu as envie de transmettre et tout, c'est aussi là où finalement tu te mets en adéquation avec des valeurs que tu as envie de transmettre. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de garder cet aspect sport, de passer ces messages. Et je disais que tu es extrêmement féministe, mais c'est un bon signe pour aussi, je trouve, l'avenir, parce que d'élever des garçons, c'est des garçons, hein, tes jumeaux, oui, élever dans cette logique féministe. Tu sais, quand je vais au parc et que des fois je vois les mamans comme elles laissent passer leurs gamins, leurs petits, leurs garçons, des comportements avec les femmes, je me dis mais des fois mais elles sont pas féministes. Je dis, c'est maman et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais arrête de faire ça. Et d'autre côté, tu sais, tu me redonnes un peu, enfin, tout le monde, pas de l'espoir, pas un peu d'espoir, mais je lui dis, il y a d'autres pendant, tu sais, de dire, pour que ça avance, il faut des générations. Pour que dans 30 ans, il y ait plein d'hommes au foyer, qu'on dépasse le 1,5%, il faut aussi des exemples. Et ça fait partie des exemples. Et qui montrent que tu fais pas une croix sur ta vie parce que tu deviens papa au foyer. Et alors que certains hommes peut-être ont peur de ça, tu sais, tu disais de l'isolement, de voir de collègues, etc.
Complètement. Il y a ça. Toi, tu as dit, j'adore jouer avec les mots. Tu as dit, tu ne fais pas une croix sur ta vie, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et je peux même rajouter, je ne fais pas une croix non plus sur ma virilité. Je reste un homme, je suis pas du tout dans cette guéguerre LGBT+, dire bien, pas bien, mettre en avant les droits des uns, des autres, j'en ai rien à faire et c'est pas du tout l'objet de ton podcast. En revanche, clairement, dans cette perspective d'avenir, est-ce qu'un homme qui cuisine, c'est un sous-homme? Moi, mon regard à moi, c'est non. Est-ce que je veux que mon fils, que mes fils sachent cuisiner sans se dire waouh, j'ai fait quelque chose de génial puisque de base, c'est aux femmes de le faire. Non, je veux que ce soit quelque chose de normal, de la même manière qu'ils respirent, de la même manière qu'ils voient papa passer la serpillière, sans se dire « papa fait quelque chose que la société nous dit que c'est maman qui devrait le faire ». Non, c'est quelque chose de complètement normal. J'ai pas à prouver ma virilité ou le fait que je sois macho ou pas. Moi, je fais des choses qui, pour moi, c'est juste du bon sens. J'ai été élevé, je considère, par une femme seule, puisque mon père était à la maison, mais il faisait rien, et il était la journée, il dormait, et la nuit, il n'était pas là. Donc, moi, c'était naturel, et pourtant, je suis le fils aîné d'une famille algérienne, donc j'ai été chouchouté. Mes sœurs, on avait marre que ma mère leur dise « apporte ça à ton frère, fais à manger à ton frère », donc j'ai été vraiment chouchouté. Mais à côté de ça, je ne peux pas nier le fait que, moi, j'ai vu combien dans ma culture les femmes étaient maltraitées et que non, moi je veux pas de ça. Moi, ma femme, je le dis tous les jours, ma femme c'est ma reine. Et je veux que ce soit la déesse de mes enfants, qu'ils la respectent et qu'ils ne considèrent pas que, vu que c'est une femme, il y a des choses qui lui sont attribuées qu'à elle. Et de la même manière, donc naturellement, en espérant que le monde aille dans le bon sens, si je leur apprends ça, naturellement, leurs femmes récolteront les fruits de ça. Mais, parce que c'est compliqué, j'espère vraiment que ça ira dans ce sens et que si naturellement, dans les générations futures, y a plus de mecs qui considèrent que c'est normal d'être papa au foyer, et comme c'est le jeu de l'offre et la demande, que s'il y a beaucoup de demandes de papa d'être papa au foyer, peut-être que le gouvernement mettra en place des moyens financiers, comme tu disais tout à l'heure, des obligations contractuelles de vous êtes papa, pendant 6 mois, vous êtes obligé de rester à la maison. S'il y a plein de demandes, peut-être qu'il y aura cette offre-là et que naturellement, en vrai, il y aura quasiment plus de genres. Il y a des genres physiologiques. Je ne suis pas Arnold Schwarzenegger pour jouer dans Junior, je crois. Je ne peux pas être enceinte. Par contre, clairement, je peux ne pas être dans cette situation d'aider ma femme. Moi, je veux pas aider ma femme. Je veux avoir mon rôle, tant dans le fait de faire des tâches ménagères qui, j'estime, ne sont pas les siennes, que dans le rôle d'éduquer nos enfants. Je veux pas être un second rôle, moi. Je veux pas être le premier rôle non plus. Je veux avoir un rôle important. Et chacun, si je suis persuadé, et j'aimerais que si on donne les armes à chacun, et les armes en l'occurrence, 9 fois sur 10, je pense qu'elles sont financières. Si on donne les armes à chacun, Bah, j'aimerais voir de plus en plus de papas, si c'est leur souhait à eux, leur besoin presque, parce que moi c'est un besoin de par l'absence de mon père, un besoin d'être proche de mes enfants. Si c'est un souhait, voire un besoin, bah, d'être présent dans l'éducation de leurs enfants, et que bah, on fera des générations où il y a très 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 peu de choses genrées. Moi, ça ce serait un kiff quand je cuisine, bah, de voir mes gosses avec une dinette. Faire comme papa, mais 9 fois sur 10, la dinette et la cuisinière, elle est rose.
Ouais, c'est une grande discussion. J'ai même écrit un jour à Leclerc en leur disant, mais pourquoi vous faites des appareils photo bleus et des appareils photo roses et pas un vert ou un jaune ou
Ouais,
vieux, un
ou du
truc
neutre, ou
tout
du blanc, ou un
du
truc comme ça, comme
neutre
vous
ou tu
voulez.
sais. Et pourquoi il y a deux appareils? Alors c'est pas Leclerc, hein, il y avait Leclerc, il y avait VT, je sais pas les marques, on va pas toutes les citer, mais qui genre leur truc et tout. Et c'est vrai que ça fait partie d'une discussion qui est beaucoup plus large. Et tu sais, je repense d'ailleurs aux séries américaines ou aux séries en général où on voit les clubs de où c'est un peu, tu sais, on voit les groupes de mamans qui se réunissent, etc. Il n'y a jamais de papa à l'intérieur, tu sais, c'est toujours ces trucs-là. Ou alors, il y a eu deux, trois films où tu vois, tu as le papa qui reste au foyer, mais ça reste, comme on disait, un truc qui est exceptionnel. Et c'est vrai
Mais
que
bien sûr,
l'exception.
t'es en marge. Si
Ouais.
tu le fais, t'es en marge. Moi qui ai vécu 3 ans en Australie, ces mamans, on les appelle les soccer moms.
Ouais.
Exactement comme tu dis, ces mamans qui font des petits groupes de mamans pendant que les enfants s'entraînent, elles se réunissent. Et ben, on les appelle les soccer moms. C'est quelque chose de très très commun. Moi, tu trouves pas de petits groupes de papas. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé avec ma femme, sans être jaloux ou quoi, mais là, les beaux jours arrivent. Moi, quelle posture, parce que je suis le mec, hein, j'ai pas besoin de le prouver, mais quelle posture, quel comportement avoir quand je vais aller dans les parcs, dans les Gulli parcs, dans les parcs, d'être quasiment le seul avec toutes ces mamans? Est-ce que vraiment j'y vais avec ma mentalité à moi, asexué, non genré, et donc je vous parle juste non pas à vous en tant que femme, mais à vous en tant que parent. Et vous, comment me percevez-vous? Est-ce que comme un papa ou comme un parent? Donc ça, c'est des questions que je me pose parce que je sais que je le vois autour de moi. Bah, je sais que je serai le seul papa dans ce parc et que si j'y vais quotidiennement, bah, je vais tomber sur les mêmes têtes qui seront que des mamans. Et donc, je ne sais pas, c'est des questions qu'on soulève avec ma femme et qu'on va bientôt rencontrer. Là, les petits bruits que vous entendez, c'est justement
Ils sont là.
l'aide des jumeaux qui viennent de se réveiller de la sieste. Donc oui, c'est des questions qu'on se pose. Et j'espère que les générations futures n'auront plus à se poser ces questions.
Ouais, et que ça sera devenu normal. Bah écoute,
Exactement ça.
c'était un épisode super sympa et différent et tout, et sur des sujets qui sont vraiment qui sont intéressants, importants, et puis qui permettent de voir aussi que bah il y a cet équilibre dont tu parlais, le besoin de sport, le besoin de ton sport à toi, de ta femme, que vous pouvez préparer les choses. Comment vous avez trouvé vous un équilibre qui est pas commun? Mais qui va se développer petit à petit, hein, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent te contacter, t'envoyer des messages, on peut te suivre quelque part?
Oui, bah, principalement sur Instagram. Mon pseudo, c'est donc Tonton du Trail. Petit clin d'œil à une chanson qui a marqué mon adolescence, Tonton du Bled. Et comme maintenant que je suis en Alsace, bah, je fais, malgré mes objectifs de route, je fais beaucoup de trail. C'est plus facile. Donc Tonton-8, du-8, Trail. On peut me suivre, on peut principalement suivre les entraînements et de plus en plus. Le message que je fais passer sur mes réseaux, c'est je m'entraîne en étant papa de jumeaux, et donc on voit de plus en plus maintenant qu'ils grandissent les enfants dans cet entraînement au quotidien.
Et on doit même aussi sur ton home trainer et tout.
Ouais, bah oui, parce que le home trainer a pris une grande grande place dans mon entraînement, dans la mesure où hiver et enfants en bas âge, donc je l'ai ménagé quand même. Donc le home trainer, pour limiter les sorties en extérieur quand il faisait trop froid, bah, il a pris une place énorme, mais maintenant je vais commencer à le mettre au placard, et vu le beau temps qui s'annonce, bah, je vais sortir avec mon vélo et ma calèche. je vais être un gros cheval.
Eh bien, écoute, en tout cas, c'était merci pour ce témoignage. Merci en tout cas pour tous les messages que tu as fait passer. Je mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode vers ton compte pour que les gens comme ça pourront voir, suivre et tout. Et puis tu partages aussi tes bilans sportifs pour ceux qui se disent qu'on peut pas être papa de jumeaux à la maison et pas faire de sport et tout. Ils verront que ça n'empêche pas hein, qu'il y a du qu'il y a des gros objectifs, qu'il y a des beaux objectifs. Je souhaite à toi une belle réussite. À ta femme aussi, hein, que vous arriviez tous les deux à remplir vos objectifs sportifs, personnels, familiaux, que tes enfants grandissent bien, que toute la famille se porte le mieux possible. Bien entendu, je mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nouvel invité. Et puis, bon, vous savez, vous avez l'habitude. L'épisode du samedi, le conseil. L'épisode du lundi, Samy. Et puis, n'oubliez pas, sport et nutrition maintenant, toutes les semaines, avec des conseils plutôt basés sur l'alimentation. Merci beaucoup, Sofiane.
Merci, Bertrand.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.